Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Boris, comment vas-tu ?
Salut, impeccable, très bien, merci à toi.
Bah écoute, journée pluvieuse, moi j'aime bien quand il pleut, l'entraînement est plus dur, plus savoureux. Donc après notre petite interview, je vais aller courir et me faire une petite séance de fractionné. Donc voilà, j'ai une journée qui commence bien, tu vois, je suis avec quelqu'un de sympa, avec un sourire et qui est passionné de prépa physique aussi. Toi tu fais un peu de fractionné, tu fonces un peu en ce moment ou pas du tout?
On en fait. C'est pas ce que je préfère franchement parce que c'est vraiment ce qui fait mal. C'est un peu ce que je redoute dans l'entraînement, mais c'est vrai que je crois qu'il faut passer par là pour pouvoir avoir des résultats. Donc je le fais pas avec plaisir, mais je le fais en sachant que derrière c'est ce qui peut payer. Donc je le fais. On en fait pas mal. On en fait surtout en bateau, en kayak directement. Ouais. Et ça m'est arrivé d'en faire un petit peu en course à pied aussi, mais c'est surtout en kayak qu'on le fait. Ouais.
Ok. Bon, bah, on va en reparler parce que les sujets de la prépa physique, ça m'intéresse beaucoup et je sais que dans tous les sports de pagaie et notamment en kayak, c'est hyper clé. Comme je te disais, tu vois, j'aime bien commencer par l'enfance et découvrir un petit peu qui étaient les athlètes étant plus jeunes. Et la première question, c'est la tradition sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Premier souvenir de sport. Alors moi, je viens d'une famille plutôt très sportive, sport de nature, sport plein air. Donc j'ai baigné là-dedans étant jeune. Je devais avoir 7-8 ans. C'était du kayak. Un des premiers souvenirs. J'ai pas fait que du kayak, mais j'en ai fait pas mal. J'ai attaqué jeune. 7-8 ans dans les Landes, une petite rivière, la Leyre, où mon papa m'avait trouvé un petit bateau jaune, un petit kayak jaune pour moi. Je sais pas où il avait, okay. Il avait sorti ça. Je m'en souviens parce qu'on l'a gardé pendant très longtemps ce kayak. Et puis voilà, une randonnée assez classique dans les Landes pendant les vacances. Et puis voilà, dans mon souvenir, ça n'avait pas été une grande réussite de mon côté dans mon petit kayak tout seul là, mais j'avais passé plus de temps à l'envers qu'à l'endroit, mais. Mais bon, ça m'a pas empêché de continuer le kayak, donc faut croire que j'aime bien l'eau.
Ok. Et comment ça se fait qu'il te fait essayer ce sport? Ton père, il en faisait un certain niveau. C'était le côté nature, le côté eau, ou juste allez, je vais faire découvrir un truc à mon fils. Puis comme ça, je pourrais essayer aussi.
Non. ils en faisaient. Mes deux parents en faisaient même. C'était ils ont pas du tout fait de compétition. C'était simplement côté loisir, descente de rivière, un peu randonnée en famille du coup. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, pendant les vacances, en général, ils prenaient un gros canoë, ils mettaient la tente dedans, et puis un petit réchaud et de quoi grignoter. Et puis, on partait la journée, des fois au week-end, avec un petit camping au milieu des Landes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, après, la compétition, c'est venu beaucoup plus tard, finalement, quand j'avais plutôt 13-14 ans, mais pas du tout compétition au début.
Ok, ouais, donc t'es plutôt du style à ceux qui ont commencé par, les gorges de l'Ardèche ou du, c'est quoi, c'est les gorges du Verdon, non aussi.
Ouais, qui sont sympas, gorges du Verdon, c'est costaud. Gorges du Verdon, c'est pas fait, c'est plutôt fait pour les
pas touristes,
les experts. Même si au-dessus il y a des tronçons un peu plus faciles, mais ouais, gorges de l'Ardèche, il y a des petites descentes faciles dans le Sud-Ouest ou dans le Tarn, des choses de la Dordogne, des choses comme ça. J'ai commencé comme ça, ouais, tout à fait.
Ok. Ok, d'accord. Ouais. Et je me demandais un petit peu à quel âge on fait un peu le choix entre le canoë et le kayak, parce que le canoë, c'est juste, du coup, c'est, dis-moi si je me trompe, hein, pour moi c'est c'est ce que tu peux faire en loisir. Le kayak, tu peux pas trop le faire finalement. Il faut du matériel un peu plus spécialisé, je crois.
Non, il y a un piège. En général, en loisir, les gens en loisir, ils font du canoë kayak.
Ouais.
J'ai envie de dire, parce que le kayak c'est assis avec une pagaie double et le canoë donc ils sont à genoux avec une pagaie simple, donc les pagaies d'un côté, et en général quand on fait de la location sur l'Ardèche ou quoi, c'est plus ou moins un mix entre tout ça, c'est du canoë kayak, les gens sont assis avec une pagaie simple, donc voilà, c'est un peu un mix des deux. À quel âge on choisit? En général, on commence par le kayak parce que voilà, il y a plus de kayak dans les clubs que de canoë. C'est plus simple pour commencer parce que c'est aussi beaucoup plus stable parce qu'on a un centre de gravité qui est plus bas. On est assis, on est au fond. Tandis qu'à genoux, on est plus haut, donc on a beaucoup plus de mal à trouver sa stabilité. Et puis on a deux pales, mine de rien, donc on peut s'appuyer des deux côtés dans un kayak.
Tandis que dans un
canoë, on est que d'un côté. Donc en général, il faut on commence kayak. Et une fois qu'on a des bonnes bases et puis qu'on se sent, on essaye de au canoë. Et puis c'est là où on choisit, là où on se sent le mieux. Mais c'est en général. Après, il y en a. J'ai discuté il y a pas longtemps avec Denis Gargaud, qui vient d'être champion d'Europe. Lui, il est arrivé au club, il voulait faire du canoë. Donc voilà, il avait un cousin qui faisait du canoë et lui voulait faire du canoë. Donc il est arrivé au club et on lui a donné un kayak. Il a dit non, moi je veux faire du canoë. Donc le cadre lui a dit non, c'est du kayak, on commence tous par du kayak, et il a dit bon ben je reviens plus alors. Et finalement bon voilà, ils ont discuté, il est revenu, et du coup il a quasiment pas fait de kayak, il a fait que du canoë. Mais non, voilà, c'est une petite anecdote. En général on commence tous par du kayak et puis après plus tard on choisit si on veut faire du canoë ou pas.
Ok, ouais, bon, en tout cas pour Denis, ça lui a valu d'avoir, ça a valu le coup d'avoir la tête dure. mais ouais, toi, tu dis, c'est plus tard qu'on choisit. Toi, tu te souviens un moment où on t'a proposé justement de switcher, ou un moment où il a fallu plus ou moins choisir, ou est-ce que même t'as peut-être, j'imagine que t'as essayé au moins.
Moi, j'ai essayé. On a tous essayé. J'ai essayé assez tard finalement. J'avais déjà fait mon choix, je crois. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais voilà, en canoë, j'ai jamais été très à l'aise. J'ai pris beaucoup de plaisir quand j'en ai fait, quand j'étais, je sais pas, je dois avoir 14, 15, 16 ans, c'était plus pour rigoler, mais mon choix dans ma tête était déjà fait, il était déjà clair. Ouais. Donc, j'ai jamais eu cette question à me poser, plus que ça, à genoux, je suis pas du tout stable, clairement, je suis une catastrophe. Okay. Donc voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça.
Et puis moi, je me suis toujours dit, j'en parlais avec Maxime, Gauthier que j'en parlais, mais je lui disais, mais vous devez avoir les genoux complètement fatigués là, complètement étirés. Je sais plus comment vous pouvez ne pas avoir des crampes à l'intérieur de ce truc parce que vous êtes complètement à l'étroit.
Ouais, ils ont toujours des crampes. Hein. Non, ils ont souvent des crampes, ils ont mal, ils n'arrivent pas à rester une heure et demie à genoux dans un bateau compressé. Ça, c'est sûr que ça leur fait mal. Et puis ils ont un peu des problèmes de dos des fois, parce qu'il y a quand même un côté asymétrique, puisqu'il pagaie que d'un côté.
Ouais.
Mais bon, ça se règle, ils arrivent à le régler en renforcement musculaire kiné sans trop de problèmes normalement.
Ouais, puis t'étires à fond les fessiers quoi. Donc il faut compenser pour bien muscler le bas du dos, ça c'est clair. Mais OK, hyper intéressant. Et j'ai cru comprendre, enfin tu le disais d'ailleurs, que t'es arrivé un peu sur la compétition sur le tard. Moi ce qui m'intéresse, c'est peut-être avant, tu vois, et quel souvenir un peu t'en as du kayak un peu loisir, qu'est-ce qui te plaisait dedans, c'était quoi la passion du gamin que t'avais. Tu vois, j'ai beaucoup de souvenirs d'une conversation avec justement Maxime Beaumont, qui lui me disait c'est tout le temps que tu passes sur l'eau à rigoler avec les copains, à t'arroser, à essayer de te retourner, et c'est tout ça. Toi j'ai plus l'impression que c'était peut-être en club ou en famille, mais c'est quoi tes bons souvenirs, les choses que dont tu te souviens?
Je me souviens, parce qu'après j'ai pas fait que du kayak, si tu veux. J'ai coupé, justement, je pense que j'étais jeune au club, j'étais un des plus jeunes, j'étais peut-être le seul gamin finalement, donc je pense que ça m'a un peu manqué, ce côté copain, rigolade et tout, et j'ai eu envie de faire autre chose, de voir du monde, donc je suis parti faire du foot pendant 4-5 ans. Je me suis inscrit au club, donc là justement c'était bien copain à gogo tous les week-ends et tous les entraînements. Et j'ai raccroché le kayak vraiment, donc j'ai jamais coupé le kayak, puisque forcément famille de kayakistes, vacances, randonnée, j'ai toujours navigué régulièrement. Et j'ai raccroché le kayak le jour où il y a eu une génération de mon âge qui s'est créée, pas forcément au sein du club, mais au sein du département, les 3-4 clubs du département. Avec on n'a pas de cadre nous de club, on n'avait pas d'entraîneur, donc là on a eu un entraîneur au niveau du département. Qui raccrochait les clubs donc de Bagnères-de-Bigorre, Tarbes, Lourdes, Argelès, Gazost notamment. Et là, il y a eu une émulation, il y a eu une génération qui était plutôt compétition. Et moi, je me suis raccroché là-dedans. On était 6-7, du même niveau, du même âge, à s'entendre hyper bien. Et là, c'est parti. C'était déclic et en avant, quoi. C'était rigolade, mais en même temps, c'était compète. Donc, on se tirait bien la bourre. On se faisait des concours de celui qui passe le plus serré, le plus extrême. Et là, j'ai trouvé dans le kayak ce que je cherchais, ce que j'avais pas au début, c'est-à-dire ce côté-là un peu copain, parce que bon, la famille c'est sympa, mais au bout d'un moment, quand on a 13-14 ans,
besoin de s'émanciper.
Voilà. Donc, ce côté copain, un peu compète, on se chambre, on se taquine un petit peu, on se lance des défis, et là, par contre, j'ai coupé le foot et. Et c'était parti pour moi, c'est l'aventure, elle a commencé réellement là, côté compète, c'était parti. Ouais.
Ok, d'accord. Ouais. Et il y avait qui dans ce groupe? Parce que j'avais regardé un petit peu dans mes recherches, et j'ai vu qu'effectivement, à un moment, t'es retrouvé sur le pôle de Pau, si je me trompe pas, avec Tony Estanguet et Emily Fers. Ils étaient déjà avec toi à ce moment-là?
Non, c'était pas eux, c'était des jeunes du département qui tous n'ont pas performé. Il y en a quand même qui sont retrouvés en équipe de France chez les juniors et les jeunes, et celui qui a le plus performé, j'ai envie de dire, c'est Samuel Hernandez, qui était de mon âge, de ma catégorie, qui a été en équipe de France junior avec moi, qui a remporté championnat du monde junior par équipe avec moi, ensemble. Et après, il est parti courir pour l'Espagne, puisqu'il avait son papa, du côté de son papa, il a un côté espagnol. Et il a été quand même médaillé au championnat d'Europe deux fois, il a gagné une Coupe du Monde, il fait cinquième aux Jeux Olympiques de Londres. Donc voilà, ça a toujours été un bon copain, un bon concurrent aussi, et un bon partenaire d'entraînement tout au long de ma carrière. Là, il a plutôt coupé et posé la pagaie maintenant, mais voilà, ça reste tout au long de c'était marrant parce que tout au long de ma carrière finalement, voilà, on est monté ensemble petit à petit chez les cadets, chez les juniors, on était en équipe de France ensemble, puis après on s'est tiré la bourre. Et après voilà, se retrouver au départ d'un championnat du monde, d'une finale de championnat du monde ensemble, c'était ça a toujours été quelque chose quoi. C'était vraiment c'est une belle aventure.
Et la relation, elle change justement, tu sais, avec quelqu'un que tu rencontres à l'adolescence. Donc c'est, tu vois, quelqu'un avec qui quand même tu partages des choses un peu fortes, des valeurs et tout. Et puis tu te retrouves, t'es sur la ligne de départ ensemble, limite à partir l'un après l'autre. La relation, elle change que t'as avec ton pote, hein, tu vois, ton pote d'entraînement. Comment tu gères un peu cette concurrence? Amical,
ça,
on va dire.
Ça change pas des masses finalement la relation. C'est ça amène toujours un petit côté sympa quand même parce que on est sur un départ de championnat du monde dans l'échauffement. Il n'y a pas de mauvaise ambiance, c'est-à-dire que tout le monde s'entend plutôt bien, même si on se connaît pas depuis l'adolescence. Il y en a pas un qui va embêter un autre. On va pas gêner quelqu'un en échauffement par plaisir. Ça, chacun s'échauffe un peu de son côté. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un un petit peu complice, c'est-à-dire qu'il y a forcément un petit clin d'œil, on se tape dans la main. Allez, si c'est pas toi, c'est moi. Ou on arrive un petit peu à se mettre aussi en confiance l'un et l'autre, savoir si on a les mêmes options sur le parcours. Parce qu'il y a quand même ça, on sait pas trop si on a la bonne option des fois, comme on n'a pas testé le parcours. Donc ça, on essaye de se mettre en confiance et puis un petit côté ouais amusant, un petit côté fun en se disant ben ouais, il y a 15 ans ou 20 ans en arrière, on avait le bateau trop grand, on prenait l'eau de partout et on savait pas pagayer et c'était une cata. Et puis là, on se retrouve au départ d'une finale de Coupe du Monde ensemble. C'est voilà, c'est un petit côté un petit peu amusant, mais il y a très peu de concurrence dans un start sur un slalom. C'est pas de la confrontation directe. C'est plus à chacun de faire sa course et puis à toi d'être meilleur. Mais on peut pas miser sur le fait que tout le monde va se planter ou quoi. Donc c'est chacun est un peu voilà recroquevillé sur soi et sur ce qu'il a à faire. Essaye de se concentrer. Il y a pas de concurrence comme on peut voir au départ d'athlétisme ou en natation où chacun un peu montre les muscles et saute à côté de l'autre pour essayer de le déstabiliser. On n'est pas là-dedans.
Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a pas d'affrontement et vous le faites pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal en athlétisme parce que c'est celui qui court le plus vite, donc ils pourraient tous courir l'un après l'autre. Mais le fait qu'ils soient les huit sur la ligne de départ, ça change tout quoi.
Ça change tout en termes de visibilité. C'est beaucoup plus agréable la confrontation directe. Comme ça, on voit de suite qui est plus rapide. Et où il fait la différence finalement? Est-ce que c'est sur le départ? Est-ce que c'est à l'arrivée? Est-ce que c'est au milieu? Donc, ça a ce côté, ce petit côté sympa.
Ouais, c'est clair. Je vois très bien. Mais cool. Et justement, là, tu parlais sur ce pôle espoir là. Vous êtes les deux seuls justement à avoir percé un peu au niveau pro. Et comme je te disais, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui sont justement, tu vois, un petit peu à ce stade-là, tu vois, être au niveau départemental, régional, à découvrir un petit peu les équipes de France junior. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, avec le recul, toi t'es resté et les autres ont arrêté? Tu vois, c'est peut-être une question un peu dure, des fois un peu, même désolé d'être grossier, mais un peu bâtarde comme question parce que c'est plus, puis il y a un peu de biais du survivant aussi, tu vois, je sais pas si tu connais le biais du survivant, mais c'est plus facile à dire d'expliquer pour celui qui a survécu pourquoi il a survécu plutôt que de l'expliquer de manière rationnelle, tu vois, parce que peut-être que les autres l'ont fait aussi et ils ont pas réussi. Mais toi, selon toi, ouais, qu'est-ce qui fait que ça suit dans le temps? Est-ce que c'est un peu le hasard, le plaisir, la passion? Est-ce que c'est l'entraînement, le hasard des sélections, des rencontres? Si on pouvait donner des petits tips justement à ces jeunes.
Ouais, le hasard, oui et non. C'est sûr qu'à cet âge-là, de toute façon, on maîtrise pas tout. C'est-à-dire que moi, il y aurait pas eu d'entraîneur au niveau du département. J'aurais pas eu ce groupe-là. J'aurais pas eu cette émulation-là. J'aurais pas eu tout ça. Et j'aurais pas été capable de le créer quand on a 12, 13, 14 ans. On est trop loin de tout ça. Donc, forcément, il faut du hasard. Il faut qu'il y ait un moment. Il y a des choses qui s'alignent, des planètes qui s'alignent. Et à cet âge-là, on maîtrise pas grand-chose. Après, il y a pas que ça. Je pense qu'il y a. J'ai toujours été plutôt un bon acharné de travail. Ça, c'est sûr que j'ai pas tendance à baisser les bras au premier échec. Et puis, je pense surtout que je savais ce que je voulais faire. Et ça, je pense que c'est important. J'ai l'impression que ceux qui réussissent, alors peut-être qu'il y en a qui réussissent pas et qui savent ce qu'ils veulent faire, mais tous ceux qui réussissent, j'ai l'impression qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que eux, ils veulent faire du haut niveau, ils veulent aller loin en haut niveau. Et du coup, on a aussi une projection à long terme sur études, pas études, quel type d'études, pourquoi je m'entraîne. Ça booste aussi au niveau scolaire. C'est-à-dire que moi, je savais que si j'avais mon bac, j'allais pouvoir partir au Pôle France à Toulouse derrière et que c'était le tremplin derrière pour pouvoir décoller dans les catégories seniors. Donc, je le savais. Donc, derrière, je me bouge pour avoir mon bac le plus rapidement possible. Et puis pour pouvoir après sauter à Toulouse et prendre le bon wagon qui est à ce moment-là. Donc je pense que et puis voilà, à l'entraînement il y a ce côté plaisir, il y a toujours ce côté un peu fun, c'est de la glisse et tout. Mais quand tu vas sur l'eau et que tu sais pourquoi, c'est pour perfer, c'est pour se sélectionner, c'est pour aller chercher une médaille chez les équipes de France junior ou quoi. Je trouve que sur du long terme, après, derrière, ça, quand même, ça lance une dynamique et les gens, ça, on sait pourquoi on y va. Et puis même en termes de motivation, c'est-à-dire qu'il y a des séances, clairement, on le voit dès les juniors, que quand il y a des séances très, très dures, du fractionné, normalement, on en parlait tout à l'heure, il y a ceux qui ont envie et puis ceux, ils disent, bon, c'est peut-être pas trop mon truc finalement. Ouais. Donc voilà. Après, il y a certainement chaque sportif doit avoir ses petits trucs à lui qui ont fait la différence. Mais
ouais. Et tu sais pourquoi toi tu t'as voulu justement être pro, performer. C'est quoi, c'est ce goût de la compète où tu te disais plutôt échéance par échéance, j'ai envie de performer, ou est-ce que t'avais une vision qui était très long terme, à savoir parce que tu vois, quand tu dis savoir ce qu'on veut, ouais, il y a deux échelles. C'est est-ce que tu regardes à 3 mois et tu regardes la prochaine compète, ou est-ce que tu regardes à 10 ans et tu te dis et tu veux un palmarès, tu vois. Toi, dans ton cas, c'était quoi? C'était, tu regardais plutôt à court terme, plutôt
à très long terme? J'ai envie de dire moyen terme. Ouais. Moyen terme, 3, 4, 5 ans. Je suis plus là-dedans. Non, je suis pas à 3 mois. Je suis pas non plus à 10 ans. Mais ouais, 3, 4, 5 ans, je regardais pour essayer d'attraper ce bon wagon, parce que ça me faisait rêver. J'ai eu, voilà, c'est des rencontres, mais sur un stage ligue, un stage régional, comme on avait l'habitude d'avoir, il y a un jeune d'équipe de France qui était intervenu une fois. Il nous avait fait venir un jeune, il nous avait présenté un petit peu son fonctionnement, ses journées, journées type sur un Pôle France, comment on prépare un championnat du monde. Et moi, quand la présentation s'est finie, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux, quoi. C'est de la compète, c'est de l'entraînement, c'est passer du temps sur l'eau, faire du sport, tout type de sport, parce qu'on pratique plein de sports de plein air. Et moi, c'était mon enfance, c'était là-dessus. Et avec des copains. Avec des copains, c'est un sport individuel, mais voilà, tous les jours, on est avec des partenaires d'entraînement. Des fois, c'est des concurrents, mais pour tout. C'est-à-dire que pour du ski de fond, on va partir à 5-6 à se tirer la bourre ou à discuter à tout le long. Faire du VTT comme ça, et c'est quelque chose qui m'a de suite parlé. Je me suis dit, mais moi, c'est ça que je veux faire, quoi.
Ouais. Ok, ouais. Ouais, bah, comme quoi, tu vois, entendre un ancien raconter son parcours, ça crée des déclics. Donc, j'espère qu'on est aussi en train d'en créer et de réveiller peut-être, ne serait-ce que s'il y a une personne, tu vois, qui nous écoute et qui se dit, putain, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, c'est d'être comme Boris, on aura gagné notre pari du jour. Mais c'est cool, c'est hyper intéressant. Et toi, ça te fait pas peur, justement, toute cette charge d'entraînement, on en parlait un petit peu de tout le travail foncier que tu peux avoir à côté, en discutant justement, on les a déjà un peu mentionné, mais en discutant les différents sports de pagaie, que ce soit Maxime Beaumont, Mathieu Péché, Gauthier Clos, ou même Nouria Newman, qui elle a été complètement écœurée justement par toute cette partie-là. Toi, ça te fait pas peur justement toute cette partie préparation physique où vous quand même, pour avoir interviewé beaucoup d'athlètes différents, alors tout le monde s'entraîne beaucoup, hein, ça c'est clair, mais vous faites partie de ceux qui quand même avaient la charrette la plus remplie, hein, si je peux me permettre.
Pas être les pires, mais je pense pas qu'on soit les pires. Dans les... Je pense qu'en natation, ça me paraît plus impressionnant, peut-être même en athlétisme sur certaines disciplines. Mais effectivement, on fait partie des disciplines où on a des grosses charges d'entraînement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup de compétitions dans une année, et on a du coup une grosse période sans compétition, et du coup on peut vraiment charger la charrette, comme tu dis, à fond. Grosso modo, on a les championnats du monde qui se terminent fin septembre, donc on prend 3 semaines de vacances, et derrière on repart sur une nouvelle saison. Et la première compétition vraiment importante, ça va être les courses de sélection qui auront lieu en avril en général. Ça veut dire que
plus de six mois
sans compétition, et là on peut s'entraîner 10, 12, 14, 15 fois, même plus s'il y en a qui veulent par semaine. Et après, la deuxième partie de compétition, on a les courses de sélection, on a les championnats d'Europe, les coupes du monde, les champions jusqu'aux championnats du monde. Là, c'est déjà un peu plus cool en termes de préparation. Voilà, c'est de la gestion de récupération entre les compétitions, de pics de forme. Donc c'est un peu plus cool. Donc moi, ça m'a jamais trop fait peur. Après, c'est sûr qu'avec l'âge, je cache pas que j'en fais un peu moins, forcément, parce que le corps il tient moins bien. Je m'en aperçois pas tous les jours, mais presque, que y a plus des petits bobos à gérer, qu'on peut moins tirer sur la corde aussi. Mais voilà, on fait autrement. Je pense que le corps il a moyen de faire autrement. On a de l'expérience. On sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on doit pas faire aussi, parce que quand on est jeune, on fait tout, et puis après, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont pas servi ou qui nous ont pas vraiment servi, et qu'il y a des choses plus importantes à faire. Donc, on arrive aussi à jouer plus sur ça, sur ce côté-là, prioriser nos entraînements, et puis voilà. Après, non, le jour où on n'a pas envie de se faire mal du tout, je pense que, voilà, sport de haut niveau, ça... Je pense pas, en tout cas moi je me vois pas réussir sans faire de préparation physique un petit peu difficile.
Ouais, il y a forcément ça passe forcément par des sacrifices ou des sacrifices d'ailleurs, mais des moments où il faut se dépasser et essayer de repousser ses limites et d'agrandir sa zone de confort et aller chercher un petit peu au fond de soi, quoi. Bon, t'as dit plein de choses là, qui est plein de sujets sur lesquels j'ai envie de creuser, que ça soit sur la prépa, tu m'as dit que certains s'entraînaient jusqu'à 12-15 fois par semaine, mais comment tu fais, quoi? Enfin, il y a quoi dans ces séances pendant ces 6 mois? Combien de temps on va dire, si on prend un peu les 6 mois de trou de compétition, combien de temps tu passes sur l'eau, combien de temps tu passes en salle, qu'est-ce que tu vas faire en salle, qu'est-ce que tu vas faire ailleurs. J'ai cru comprendre que vous croisiez beaucoup, c'est aussi peut-être le secret pour permettre de faire des quantités aussi grosses, c'est de croiser un peu les entraînements et de toucher un peu à tout. Mais comment est-ce que, peut-être plus jeune effectivement, tu les as articulés, et peut-être qu'est-ce que tu as modifié aussi avec l'âge, parce que j'avais envie pas mal de parler de longévité avec toi. Ouais. Mais du coup, ouais, comment s'articule, on va dire, les 6 mois de travail de fond que tu peux faire dans le creux d'une saison?
Wow, c'est une bonne question, ça va falloir passer du temps.
Il y a une vraie stratégie? Vous passez vraiment du temps à penser justement ces 6 mois-là?
Ah oui, c'est pas les 6 mois qui font la saison, mais pas loin quand même. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ces 6 mois-là, c'est-à-dire qu'on fait des bilans déjà de toute la saison précédente, sur la technique, sur le matériel, sur la préparation physique. On essaye de ressortir des pistes de travail durant ces 6 mois de ces expériences-là. Et qu'est-ce qui se joue? Il y a pas mal de matériel, mine de rien. On discute pas mal matériel, évolution de bateaux, de pagaies, sur en fonction du site des prochains championnats du monde. Donc, il y a pas mal de boulot là-dessus avec les constructeurs. Il y a un travail forcément technique. C'était aussi l'occasion pour nous de retravailler toutes nos gammes, essayer d'améliorer quelques petits détails dans nos gammes. C'est des choses, pour moi, sur lesquelles on va s'appuyer tout au long de l'année. Ces gammes-là, elles reviennent tout au long de l'année. Et après, il y a un travail physique sur l'eau, forcément. En général, on commence par de l'aérobie assez longue. C'est des séances de une heure et demie sur l'eau, mais vraiment à basse intensité.
Tu vas te mettre sur un lac plat et tu vas ramer, pagayer.
Ou même en eau vive. Mais le but, c'est de pas monter trop dans les tours. En eau vive ou avec un petit courant lisse, on a ça avec quelques portes, des choses assez faciles qui nous permettent de travailler sur de l'aérobie un peu physio et puis en même temps de travailler nos gammes techniques ou travailler des petits trucs techniques. On arrive à faire les deux en même temps. Et après, il y a pas mal de muscu. La muscu, c'est un peu plus tard. C'est plutôt, quand il fait froid, en fait. J'aime pas trop la muscu, mais quand il neige dehors, je suis mieux en salle que sur l'eau. Ça, c'est sûr. Et puis, effectivement, pour tenir dans la longueur, il y a forcément des moments où on coupe, on essaye de trouver d'autres activités pour que mentalement ça passe mieux. Et là, c'est un petit peu, chacun a ses petits trucs. Il y en a, ça va être du ski de fond, ça va être du VTT, de la course à pied, ça peut être vraiment du squash. C'est assez varié. Chacun a ses petites préférences, mais ça fait du bien. Puis ça nous permet aussi de travailler un peu les jambes, mine de rien.
Ouais. Pour toi, c'est quoi du coup les petits...
Moi, j'aime bien le ski de fond, ski de fond, course à pied. J'aime bien le squash aussi. On n'a pas pu en faire cette année, mais j'aime bien. J'aime bien ça, ça met bien la caisse. Je suis pas très bon, je suis un peu bourrin, mais
je m'amuse bien. Moi, que des sports où tu te mets quand même carpette, quoi, parce que le squash, pour en faire de temps en temps avec mes potes, déjà tu termines rincé au bout d'une demi-heure. Le ski de fond,
ça rigole pas non plus. On peut faire cool si on veut quand même.
Ouais, tu peux faire cool, mais bon, te connaissant, je pense qu'il y a forcément un moment où tu lâches un peu les chevaux.
Oui, c'est sûr. Mais le squash, par exemple, ça permet de se mettre minable sans pour autant s'en apercevoir, parce que voilà, on est derrière la balle et de toute façon, il faut l'avoir avant l'autre et avant de rebond, et puis on repart se replacer, et puis finalement, on finit la séance et au bout d'une heure, on est cramé, on s'en est pas aperçu. C'est beaucoup plus facile que de faire une séance de fractionné sur une piste d'athlétisme, par exemple, je trouve.
Ça c'est clair, on est d'accord. Mais la quantité de sueur est à peu près équivalente, ouais. Mais du coup, ouais, c'est un truc sur lequel tu réfléchis justement, mettre un peu du jeu pour entretenir, ouais, pour justement pour pouvoir continuer à avoir une charge d'entraînement conséquente, mais sans t'en rendre compte, entre guillemets, parce que c'est un gros programme, quoi, quand tu
ouais, on essaye toujours, ouais, de rajouter un petit peu de ludique dans les séances. Sur les séances, on peut pas, et clairement on sait que ça va faire mal au bras et on va avoir du lactique jusqu'aux yeux, et puis là il y a pas trop le choix, et puis il faut le faire en spécifique avec des portes un peu en situation de course, voilà, on le sait. Mais d'à côté, on est quand même déjà un sport assez ludique, c'est-à-dire qu'on peut aussi passer une heure dans les vagues à surfer, à faire des figures, à prendre des portes, mais plus pour rigoler, à tenter des choses. Et ça, mentalement, ça nous coupe quand même bien. On arrive à lâcher. Il y a des disciplines, je pense, c'est plus dur que nous, mais nous, on est, voilà, c'est un sport de glisse. On peut aller faire une rivière, on peut changer de stade d'eau vive. On peut faire du plat, c'est assez simple pour un kayakiste de mentalement de couper, de faire autre chose, même si ça reste dans le kayak finalement.
Ouais, ok. Ouais, je vois. Et comment ça s'articule une semaine un petit peu classique? Alors, bon, j'ai cru comprendre qu'il y avait des gros blocs là un peu durant ces 6 mois de travail. Mais comment est-ce que tu cales autant d'entraînement dans une semaine? J'imagine tous les jours, peut-être tous les matins, vous passez du temps sur l'eau, et puis peut-être l'après-midi une autre activité pour varier un peu les plaisirs. Comment une semaine un peu type, ça ressemble à quoi?
Moi, en général, on est à 2 entraînements par jour avec peut-être une coupure le mercredi.
Sur l'eau?
Non, pas forcément sur l'eau. Non, 2 entraînements. Je compte. Compter en entraînement, ça a toujours été compliqué pour moi parce que je sais pas qu'est-ce qui fait partie de l'entraînement. On n'a pas tous la même définition de qu'est-ce qui fait partie de l'entraînement ou pas. Une séance kiné, est-ce que ça fait partie d'un entraînement? Est-ce que une séance de récup, jacuzzi, sauna, hammam, ça fait partie de l'entraînement, ou même de VTT? Il y en a qui le comptent pas forcément. Mais voilà, en général, on a voilà, c'est du kayak plus ou moins tous les matins en eau vive. Donc ça, c'est des séances, ça dure une heure et demie sur l'eau, grosso modo. Ça peut arriver de plus en plus au fur et à mesure de la saison qu'on passe du temps derrière avec de l'analyse vidéo.
Donc, okay.
On peut y repasser trois quarts d'heure, une heure sur de l'analyse vidéo, sur quelque chose, un détail technique, sur de la comparaison de deux passages avec des doubles écrans. On a des logiciels qui permettent de faire des doubles écrans, donc c'est toujours hyper intéressant. Et l'après-midi, c'est une séance de musculation suivie des fois d'un petit peu de bateau sur le plat, ou alors une course à pied, ou si c'est l'hiver, un petit coup de ski de fond. Mais grosso modo, c'est à peu près tous les jours comme ça.
Ok, voilà. D'accord.
Ouais. Bateau, ouais, le matin, sais,
c'est quand même bien rempli. Hein.
Ouais, c'est bien rempli. Après, moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, le dimanche, le samedi après-midi, c'est réservé à la famille. Le mercredi après-midi, c'est réservé à la famille. Donc, j'ai fait quelques petites coupes dans mon planning d'entraînement, mais
ouais,
c'est bien rempli, ouais.
Ok. Je me posais aussi, comme je te disais, les questions un peu de la longévité. Je vois que, tu vois, un rythme comme ça, tu peux pas le garder 15 ans. Enfin, en tout cas, c'est hyper dur, ou peut-être t'es obligé de baisser en intensité. Là, tu as 35 ou t'approches des 35, c'est ça?
Ouais, j'ai 35, ouais.
Tu vois, qu'est-ce que t'as modifié, on va dire, avec le temps? Tu vois, t'as parlé effectivement de petits bobos qui te rattrapent aussi. Enfin, tu vois, moi je le vois avec l'âge aussi. J'arrive sur mes 31 et je me dis pas que c'est forcément des petits bobos, que j'ai plus facilement des nouveaux petits bobos, mais je dis que les petits bobos récurrents mettent plus de temps à se soigner et reviennent un peu plus vite, tu vois. Moi je m'entraîne à peu près tous les jours, mais tu vois, je me dis, tu vois, si tu entraînes deux fois par jour, comment est-ce que tu gères ça? Qu'est-ce que tu modifies justement pour rester performant? Est-ce que, je sais pas, t'as modifié, est-ce que t'as retouché un peu ton sommeil? J'imagine que tu te connais aussi mieux que le Boris qui arrivait en équipe de France il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce que tu as modifié, on va dire, avec le temps et avec la sagesse pour pouvoir performer dans le temps?
J'ai modifié pas mal de trucs, mine de rien. Je crois qu'effectivement, je me connais mieux. Donc, je trie un petit peu dans mon entraînement ce qui est important, pas important, ce qui est important pour la performance et ce qui est important pour ma préparation physique, pour pas me blesser. Aussi, mine de rien, parce que bon, c'est toujours les mêmes blessures qui reviennent en général, c'est pas des nouveautés, mais c'est vrai qu'elles reviennent plus fortes et plus souvent. Donc je gère ça. J'hésite pas à faire sauter une séance technique ou même une muscu pour aller passer une heure et demie chez le kiné, par exemple, aussi. Ce que j'étais incapable de faire quand j'avais 20 ans. Bah, aujourd'hui, c'est un peu passage obligatoire. Ouais. Ça me dérange pas parce que ça m'apporte autre chose et que de toute façon j'en ai besoin pour pouvoir continuer. Après, on a diminué en quantité forcément les entraînements, mais par contre j'ai plutôt tendance à dire que le reste de l'entraînement a plutôt augmenté en qualité. C'est-à-dire ouais. qu'il y a autant, voire plus d'intensité dans chaque entraînement et d'intensité physique que mentale, c'est-à-dire que j'en fais moins, mais par contre, faut que ce soit mieux fait, que ce soit plus rapidement fait, mine de rien, c'est assez important, je trouve. C'est vraiment, c'est un gain de temps monstrueux. Plutôt que de passer 2 heures sur l'eau, ben j'en passe 1 heure, mais par contre, le résultat c'est le même, quoi, finalement.
Ouais.
Donc voilà. Puis après, ouais, comme je disais, j'ai des coupures dans la semaine aussi pour pouvoir souffler et puis pour passer du temps en famille ou à faire autre chose. Donc voilà.
Ok, ouais, mais je comprends mieux. Ouais. Et quand tu dis augmenter en qualité, et notamment mental, c'est être là, quoi. C'est être là à 100% et pas faire des passages à moitié, juste parce qu'il faut les faire. C'est ok si t'en fais un, quitte à prendre 2 minutes de récup en plus, mais c'est le faire à 100%, si je comprends.
Ouais, bien. Ouais, c'est un investissement mental qui est beaucoup plus important. Ma référence était un peu, j'ai navigué avec Tony Estanguet quand je me suis entraîné. Mmh. Et Tony, quand j'étais jeune, lui était déjà un petit peu autour de la trentaine, donc il était dans cette démarche-là d'en faire un petit peu moins, entre guillemets. Ouais. Par contre, quand il montait sur l'eau, c'était vraiment, il perdait pas une seconde de son temps et tout ce qu'il faisait, c'était pour avancer quelque part. Il travaillait quelque chose, il voulait faire ça bien. Il faisait jamais une séance où c'était très rare, ou alors volontaire pour vraiment couper, mais pour faire une séance, quoi. Il était là parce qu'il voulait travailler ça, ça, ça et ça de cette façon, comme ça, comme ci, avec cette personne-là, cet entraîneur-là. Et ça a marché très, très bien. C'est-à-dire que voilà, il y a un investissement de malade sur une heure et demie. Et par contre, il en faisait en termes de quantité un petit peu moins que les autres. Mais ça marchait tout aussi bien, voire même mieux à la fin. C'était assez performant.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, ça fait un peu la passerelle avec justement quand on parlait des plus jeunes. J'ai l'impression que Tony, en tout cas tel que toi t'en parles, il savait exactement pour ce qu'il voulait quoi sur chaque entraînement, et que du coup bah effectivement derrière ça surperforme. Mais il y a d'autres choses que t'as pu tirer, observer d'un grand champion comme lui. Tu vois, c'est sûr que à chaque fois la comparaison elle doit revenir, ça doit être un peu fatigant, et puis c'est aussi t'as le poids aussi d'avoir un grand champion comme ça dans un sport d'eau que parfois les gens assimilent, font pas forcément la différence. Mais vu que toi tu t'es un peu entraîné avec lui, il y a des choses aussi que t'as pu, je sais pas, d'autres choses à part ça, justement ce focus et la gestion un peu de l'âge. Ouais, il y a d'autres choses que t'as pu en tirer, essayer de, ou dont tu t'es inspiré, ou d'autres choses sur lesquelles il a transmis des choses importantes pour toi ou pour d'autres.
Je pense que ça, c'est la chose la plus importante, c'est ce qui m'a le plus impressionné chez lui. C'est cette capacité à, c'est-à-dire qu'à la fin, il est arrivé, il était au téléphone, il avait plein de trucs à gérer, et puis à un moment, il rentre dans le vestiaire, il coupe tout, et là, il est en mode entraînement. Moi, qui étais plutôt jeune, je montais sur l'eau 10 minutes avant lui, mais en fait, j'avais rien fait parce que je discutais avec d'autres, que je traînais plus que autre chose. Et lui, il monte sur l'eau, tac, c'est échauffement, tac, tac, il dit bonjour, et puis poum, là, c'est parti. Et dans la séance, il y a très peu de temps mort, et tout est fait pour en faire le maximum et le mieux en une heure. Et puis hop, après, il ressortait de l'eau et puis il repartait sur autre chose. Ça m'a vraiment impressionné. C'est vraiment le truc, tu dis, bon, là, moi, en fait, j'en fais plus, mais en fait, j'ai l'impression que je fais rien à côté de lui, quoi. Ouais. Et ça, avec l'âge, forcément, moi, ça m'a, surtout moi qui étais plutôt, j'adore m'entraîner et me tirer dessus, je me suis dit, il y a aussi d'autres moyens de fonctionner. Et c'est plus ou moins aussi, voire plus efficace. Après, il y a pas mal de choses. Il y a quelque chose qui m'avait choqué, c'est s'il avait déjà un gros palmarès, et de le voir douter autant avant une compétition. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelqu'un qui gagnait tout le temps, qui avait pas de doute. Et puis en fait, 2 jours avant, il se posait 20 000 questions sur son bateau, sa pagaie, et ça, je sais pas le faire, et ça, ce passage-là, j'y arrive pas. Et finalement, 2 jours après, il gagnait, mais dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, un gars comme ça, ça peut aussi douter, ça peut aussi se poser plein de questions et de pas être à l'aise sur un départ de Coupe du Monde. Alors que pour moi, quand je le voyais, je me disais, bon, le gars-là, voilà, il sait tout faire, il arrive à tout faire, il doit pas être inquiet, quoi. Et c'était pas le cas, donc ça rassure aussi. C'est-à-dire que nous, quand on est jeune, on est toujours un peu inquiet sur plein de choses. On se dit bon, en fait, c'est normal, et puis ça arrivera toute notre carrière, quoi.
Ouais, ok, je vois. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, et puis ça montre plein de choses, quoi. Comme quoi, effectivement, le focus, la présence mentale, et en même temps la remise en question, le doute, ça peut être aussi vertueux. Ça casse un peu les codes, on voit souvent les athlètes comme étant des, ils doivent montrer leur image publique comme étant des gens sûrs d'eux, en confiance, qui doutent jamais. C'est aussi comme ça. On parlait rapidement de réseaux sociaux avant d'enregistrer, mais tu vois, on vous dit, je sais que sur ce qu'on vous conseille, tu vois, on vous conseille aussi, voilà, de vous mettre en valeur et de pas forcément de montrer les moments un peu plus durs et de partager ces phases un peu là. Et le fait d'être à l'intérieur, mais en fait, tu te rends compte que on est tous des humains, quoi, et qu'en fait, ça peut être, tu peux te tirer aussi du doute et de la peur des grands bénéfices, quoi, ou des choses intéressantes, quoi. Donc c'est intéressant.
C'est sûr, non, mais ça permet une remise en question perpétuelle. C'est aussi ça. Je pense que ça a été aussi ça sa force, c'est qu'il a toujours, il a pas toujours été bon, mais pas loin. Mais par contre, il arrivait quand même à se remettre en question et à aller de l'avant pour trouver d'autres solutions, pour trouver toujours avoir un temps d'avance sur tout le monde. C'est pas parce qu'il était champion du monde qu'il allait se reposer. Et cette remise en question là, même à la veille d'un départ de championnat du monde, ça te permet de te tenir en éveil et d'un peu tenir en alerte sur le fait que t'es pas forcément le meilleur et qu'il va falloir être bon pour être devant. c'est sûr que okay. C'est intéressant.
Ouais, ouais, c'est clair. Et je reviens un tout petit peu en arrière là sur la conversation qu'on avait justement avec avec ce que tu avais modifié un petit peu avec le temps et avec l'expérience. Comme je te disais encore une fois, il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent. Et tu vois, et s'il y avait un ou deux trucs, si tu pouvais revenir en arrière, tu vois, et revenir à tes 20 ans et vraiment changer un peu ta routine, tu vois.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Qu'est-ce que tu changerais, tu vois, si tu pouvais le changer dès tes 20 ans et pas forcément attendre, tu vois, le déclic à 24, 25 ou un peu plus tard d'une rencontre avec Tony ou d'une compète ou d'une, tu vois, un truc un peu ou d'une rencontre avec un médecin, un kiné. S'il y a des trucs que tu pouvais refaire vraiment depuis zéro pour les petits jeunes qui nous écoutent et qui vont être ben on l'espère hein, les champions de demain, tu vois. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu mettrais en place depuis le début?
Moi, c'est une bonne question. J'ai jamais eu trop de regrets sur mes choix ou, tu vois, j'ai toujours eu l'impression d'avoir fait les bons choix et que ça m'a amené au bon endroit. Donc, j'ai pas grand chose à changer. Peut-être, j'ai envie de dire aux jeunes, faites-vous confiance et faites ce que vous sentez. Faites-le avec intensité, avec plaisir. Mais surtout faites-vous confiance en fonction de vos sensations, vos envies. De toute façon, on peut pas vous obliger à faire quelque chose. On peut pas. Si tu le sens pas, ça marche pas. De toute façon, moi j'ai envie de dire que voilà, ce soit du travail technique, du travail physique, des choix, des stratégies. J'ai l'impression que les athlètes. Alors nous, on se connaît de mieux en mieux quand la carrière, au fur et à mesure de la carrière. Mais même quand on est jeune, je pense qu'il faut se faire confiance là-dessus. Après, non, j'ai l'impression d'avoir fait plus ou moins les bons choix. J'ai dû me faire confiance, tu vois.
Ok. Bah, écoute, c'est, je te cache pas que je suis un peu, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, tu vois. Je pense que quand on est jeune, justement, on se connaît pas trop et des fois, faut se forcer un peu. Moi, typiquement, je détestais un peu la préparation mentale ou la visualisation ou ce genre de choses. Et tu vois, la première fois, le premier conseil un peu de prépa mentale ou pour augmenter la confiance en moi, bon, les auditeurs le savent, mais toi, je sais pas, mais moi, j'ai monté plusieurs boîtes, donc moi, mon kiff dans la vie, c'est de monter des projets et de monter des équipes, et tu passes ta journée à résoudre des problèmes et à trouver des solutions. Et tu vois, au bout d'un moment, c'est pareil, tu vois, t'as une espèce de d'usure, de lassitude qui se crée. Et t'es en permanente évolution parce que ton rôle quand t'as 3 employés c'est pas le même que quand on aura 10, que quand on aura 20, que quand on aura 50, et t'es en permanence en train de changer. Et quand j'ai commencé la prépa mentale, c'était un truc tout bête. C'était le matin, passer 3-4 minutes devant ma glace à me répéter des phrases positives du genre tu peux le faire, t'es le meilleur. Tu vois, des trucs un peu clichés, mais et un peu à l'américaine, ça peut sembler comme ça. Mais et franchement, les 2 premiers mois quand je l'ai fait, et j'ai commencé tôt, à je pense à 23-24 ans. Je me trouvais ridicule, quoi. Je me trouvais ridicule et je me disais mais ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Et là aujourd'hui, 7-8 ans plus tard, bah je te dirais aujourd'hui je pourrais pas faire ça en fait. Si justement je pouvais, moi je pense que, enfin tu vois, là où je suis d'accord avec toi, c'est que quand tu crois pas du tout en un truc et que tu l'essayes et que ça marche pas, ça marchera jamais, mais il faut quand même, tu vois, se forcer un peu des fois à tester des nouvelles choses et à pousser un peu le truc un peu plus loin. Tu vois, faire une séance de kiné, un petit jeune de 20 ans, il l'a fait une première fois, il va se dire oui, bon, ok, ça détend, c'est vite fait. Mais si tu lui fais essayer pendant 4-5 mois peut-être d'affilée et que à la fin tu regardes les résultats, bah là il va peut-être se dire ah ouais, en fait bah, je me sens peut-être un peu mieux que l'année dernière ou quoi, tu vois. Donc Moi je suis plutôt du genre à pousser un peu les jeunes au cul, tu vois.
Mais
c'est dur, c'est après c'est hyper dur avec le recul de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Mieux c'est une vraie introspection, c'est pas facile la question.
L'un n'empêche pas l'autre parce que tu peux très bien être curieux, c'est de la curiosité après. Il faut pouvoir être un petit peu touche à tout, voilà, nous on a besoin d'être curieux, d'essayer plein de formes de bateaux, d'essayer plein de formes de pagaies, d'essayer plein de techniques différentes pour passer des portes. De toute façon, il faut être curieux. Et par contre, j'ai envie de dire, après, fais-toi confiance à toi dans tes choix. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout essayé, effectivement, il faut cette curiosité. Mais une fois que tu as tout essayé, fais-toi confiance. Si c'est dans ce bateau que tu es bien, prends ce bateau, même si il est peut-être un peu moins rapide sur ce qu'on a vu. Mais si tu es mieux, vas-y. Et puis, c'est pareil, essaye le kiné, comme tu dis. Et puis, si ça marche pas, si ça te plaît pas, si tu as l'impression de perdre ton temps, si tu penses que tu peux faire mieux, trouve un meilleur kiné. Vas-y. Et puis, valide tes trucs et avance, fais ton parcours à toi. On a tous des parcours qui sont singuliers. Donc, les prochains parcours seront singuliers. Et ça, il faut qu'ils se fassent, que les jeunes se fassent confiance pour trouver leur chemin, en fait. Curieux et confiant.
Facile. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la curiosité, parce que j'ai l'impression, qu'il faut en permanence, tu vois, tester des nouvelles choses quand même. Il faut, tu vois, être capable aussi un peu de s'auto-gérer et de tenter des nouvelles choses et à la fois de garder un socle solide sur ce que t'as de confiance et en même temps de permettre d'aller explorer des nouvelles disciplines. Je sais pas d'ailleurs si toi t'avais testé, mais c'était avec Mathieu Péché, on en avait discuté et eux ils avaient testé un orthoptiste, tu vois, et donc tu sais c'est un médecin pour les yeux, enfin un coach pour les yeux. Et t'en as fait aussi toi?
Ouais, on a fait.
OK, d'accord. Mais tu vois, ça, j'aurais jamais pensé. Enfin, faut vraiment pousser le degré de la performance hyper loin pour se dire, OK, dans mes curseurs de la performance, j'ai aussi mes yeux et mon temps de réaction. Comment est-ce que je l'améliore? OK, je vais voir un coach là-dessus. Donc, c'est hyper intéressant comment vous décomposez la performance, quoi.
Ouais, on est capable d'aller chercher loin. Il y a des choses comme ça. On est capable d'aller vraiment dans du détail avec des personnes hyper pointues sur des domaines hyper précis. Après, bon voilà, on teste, on progresse un petit peu et puis on change mais ça fait aussi partie de la stratégie de la stratégie un petit peu mentale de couper ses routines et de voir autre chose que tout le temps les mêmes personnes, les mêmes kinés. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit au début bof, puis après je me dis c'est un truc, ça va être génial, on va travailler autre chose, on va s'y prendre, rencontrer d'autres personnes, on va. Et ça, forcément, voilà, dans la performance, il doit y avoir un impact, forcément, mais aussi dans ce cassage de routine et dans cette stratégie-là, c'est intéressant. Et puis même dans la confiance, c'est-à-dire que t'as l'impression vraiment d'être allé au bout d'un sujet hyper pointu. Mmh. Et mine de rien, quand tu te prépares pour une finale des championnats du monde, quand t'es au départ, tu sais que dans la saison, t'as tout mis en place pour être bon parce que t'es allé dans des sujets hyper pointus, tu te dis les adversaires qu'il y a à côté de toi, eux ils l'ont peut-être pas fait.
Ouais, c'est clair.
Même si ça va servir à rien.
Non, bon, tu sais pas le genre de la compète, et puis tu sais, il suffit que t'aies mangé un truc un peu douteux la veille ou que t'aies fait un petit cauchemar, ça change tout. C'est ça qui est dur aussi. Mais il y a d'autres sujets justement, peut-être à part la vue, à part justement les équipements sur lesquels toi t'as été curieux et qui t'ont apporté. J'ai l'impression que il y a vraiment cette intention de bouger tous les curseurs de la performance. Tu parlais de pousser des sujets à fond. Il y a des sujets, toi, que t'as vraiment poussé à fond et sur lesquels vraiment t'as progressé tout au long de ta carrière.
Non, le sujet que je vois, on a fait pas mal orthoptiste du coup pour les yeux pendant une période. Je pense que préparation physique, on a quand même bien poussé les choses. bien pousser les choses assez loin. Non, tout ce qui est notion de profil moteur, je sais pas si t'as entendu parler. Essayer de
trouver. Explique-moi un peu, ouais.
Ouais, je suis pas hyper bien calé là-dessus. Alors, je suis pas hyper à l'aise, mais c'est des notions d'individualiser pour chacun, pour que chacun se retrouve dans son profil moteur, son profil préférentiel. qu'on utilise plutôt, voilà, qu'on pagaie. Il y en a qui vont pagayer plutôt avec le dos, d'autres plutôt avec les bras, d'autres plutôt avec le haut du corps. Voilà, c'est un exemple sur le coup de pagaie, mais c'est cette notion-là qui est pas mal utilisée dans pas mal de disciplines, et dans le kayak, on l'utilise pour justement mettre toutes les chances de son côté et faire en sorte d'utiliser c'est les meilleures ressources qu'on a un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes. Donc je suis pas hyper calé, c'est pas c'est hyper intéressant, c'est des notions qui sont hyper intéressantes, et ça me permet de voir que chacun fonctionne différemment en fait. Ouais. Et que c'est normal. Si tu veux, qu'il y en a un qui pagaie comme ça et l'autre il va plutôt pagayer à l'inverse, mais finalement c'est dans son profil moteur et c'est comme ça qu'il pagaie lui le mieux. Donc c'est des choses qui sont hyper fines, tu peux aller hyper loin parce que ça va sur pousser avec quel doigt de pied, quasiment sur le cale-pied qu'on a au fond du kayak, qui permet derrière de pouvoir être dans la bonne posture et dans la meilleure posture où tu seras la plus efficace. Donc c'est des choses hyper fines, ça va jouer sur les calages, sur la prise de main, sur la pagaie, ça peut jouer sur plein de choses. Et je pense que là on a le curseur, il est pas mal poussé, ouais, sur c'est une sorte d'individualisation en fait, que chacun se retrouve dans son meilleur profil et qu'il utilise surtout au mieux le jour de la course.
Ouais, ok, ouais. Je vois, il y a un mélange de morpho-anatomie, de style aussi, de façon de s'approprier un sport ou l'environnement.
Et avec pas mal la préparation mentale, pardon, aussi.
Ouais.
Mine de rien. Sur les préférences de communication et d'interprétation des retours techniques qu'on peut avoir. Donc, c'est hyper intéressant.
Ok. Ok, d'accord, ouais, je vois. Puisque tu parles de préparation mentale
avec Emilie, si t'arrives à l'avoir.
Vas-y, ça marche. Mais je lui dirai que je poserai la question de ta part. Mais vu que tu parles de préparation mentale et que l'heure tourne pas mal, il faut quand même que je te libère pour que tu puisses aller vaquer à tes occupations et ton entraînement. Moi, je suis très intéressé justement de savoir un peu ce que toi t'as mis en place sur la préparation mentale, et notamment sur comme on se le disait juste avant de commencer, sur la visualisation, parce que c'est un truc que vous êtes obligé de faire, parce que avant une compétition, alors peut-être pour réexpliquer un peu aux auditeurs, et dis-moi si je me trompe, mais vous ne voyez pas les parcours, enfin le parcours est, vous voyez le bassin, ça vous savez dans quel bassin vous allez concourir, mais les portes, vous savez pas à quel endroit elles vont être placées, donc ça peut complètement changer le parcours et vos sensations sur un bassin, et vous les voyez que 24 heures avant, et vous avez pas le droit de les tester, vous avez juste le droit d'être sur le bord et de les observer. Et donc à ce moment-là, alors tu vas mieux m'expliquer exactement ce que vous faites, mais il y a des ancrages peut-être avec des choses que vous avez déjà fait, des nouveautés, et en fait du coup vous devez vous poser pour analyser et essayer de visualiser le parcours pour que le jour J, enfin du coup le lendemain, vous ayez l'impression déjà l'avoir fait. Est-ce que j'ai bien résumé déjà?
Ah, t'es pas mal. Non, concrètement, on a le droit de s'entraîner sur le bassin maximum de fois, c'est même le mieux, sur un bassin par exemple des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Par contre, on ne sait pas où sont remplacées les portes, donc on connaît pas le parcours, on le connaît que la veille, donc on n'a pas le droit d'essayer. Donc effectivement, en partant de là, ce qu'on a le droit de faire, c'est de voir ce qu'on appelle quand même des ouvreurs. Il y en a qui testent le parcours pour voir s'il est bien faisable, s'il est approprié, s'il n'est pas trop facile, pas trop dur. Donc eux, on a le droit de regarder quand même. On a quand même quelques infos comme ça. Et on a les premiers concurrents qui vont partir aussi, on a le droit de les regarder. Et après, voilà, dans tous les cas, on n'a pas le droit de laisser. Donc la stratégie que tout le monde emploie aujourd'hui, c'est de la visualisation mentale. Clairement pour essayer s'imaginer passer les portes, voir comment on va s'y prendre, quelle stratégie on va mettre en place, et ça c'est hyper important. Il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer là, mais bon, voilà, on est obligé de passer par cette visualisation. Et de toute façon, en kayak assez jeune, on est baigné là-dedans assez jeune, donc j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de problèmes pour visualiser un parcours de l'extérieur. Il y en a même, j'ai entendu dire, tu vois, des gens qui arrivent presque à prédire le chrono de combien va faire une manche. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent au départ et ils déclenchent le chrono quand ils passent la cellule, ils s'imaginent faire leur parcours et à la fin, ils coupent la ligne, ils coupent le chrono et à une seconde ou deux près, c'est le temps qu'ils arrivent à faire. Donc, je pense que les kayakis sont plutôt pas mal calés en visualisation mentale. que ce soit interne ou externe, c'est-à-dire qu'on arrive à s'imaginer à l'intérieur du kayak en train de pagayer, mais aussi on arrive à s'imaginer en train de se voir passer. Et là, voilà, on définit avec l'entraîneur au bord toutes les choix stratégiques d'une option. Est-ce qu'il faut passer vite? Est-ce qu'il faut passer lentement? Est-ce qu'il faut être à la pointe avant, orienté vers la droite, vers la gauche? Est-ce qu'il faut éviter cette vague? Est-ce qu'il faut qu'on passe sous la porte avec le bateau sans la toucher? Voilà, toutes ces stratégies-là, on arrive à les identifier du bord. On se trompe des fois, mais tout est calé. À peu près tout est calé quand on est au départ. Ouais.
Et il y a beaucoup de différences de stratégie du coup entre les différents concurrents, je m'en rends pas compte. Est-ce que c'est des détails techniques, hein, tu vois, là t'es rentré assez loin dans la précision, mais et j'imagine que du coup tous les parcours sont différents, sinon il y aurait pas un premier et tout le monde ferait le même temps, mais est-ce qu'il y a des grosses différences finalement de choix finalement ou est-ce que la visualisation en fait vous amène plus ou moins vers les grands choix stratégiques un peu communs quoi.
Ouais, il peut y avoir ça dépend des parcours. Il y a des parcours où il y a pas de difficulté et tout le monde va faire la même chose quasiment à quelque chose près.
OK.
Ça arrive. Après, plus le parcours est dur, plus il va y avoir des choix. Grosso modo, c'est qu'est-ce qu'on fait sur cette figure-là? Si on prend la figure, c'est une notion de prise de risque. Est-ce qu'on prend le risque de gagner une demi-seconde, mais potentiellement on sort de la route? Ou est-ce que on fait une option un peu plus sûre, on perd une demi-seconde, et puis vu que le parcours est très dur, eh ben c'est peut-être pas ça qui fera la différence. Donc c'est plus ces notions-là. Après, les trajectoires à quelque chose près, en tout cas pour quelqu'un qui a jamais vu trop de kayak, je pense qu'il va pas voir les différences. Il y a des petites différences, mais c'est pas visuellement, ça se voit pas facilement. Après, clairement, il y a des athlètes qui préfèrent ces types de portes en remontée, qui vont les faire tout le temps de la même manière, ou ces types de passages. Et là, il peut y avoir des petites différences, mais c'est pas.
Ouais, après, c'est de la préférence perso, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Il y a très peu de. Ça se joue pas trop là-dessus, sachant qu'après, sur un championnat du monde, on a une demi-finale et une finale qui là sont sur le même parcours. Une fois qu'on est en finale. Donc là, on a toutes les vidéos de la demi-finale. Donc on a tous les meilleurs. Chrono avec tous les temps intermédiaires et du coup on sait porte par porte qu'est-ce qui va le plus vite pour la finale
puisque c'est le même parcours. Je vois.
Donc là si tu veux la notion de visualisation c'est un petit peu différent mais et aussi de stratégie plus ou moins tout le monde a la même en finale parce qu'on connaît les stratégies plus rapides.
Ouais, ok, d'accord, je vois. Et j'avais une question que je me posais parce que la visualisation, tu vois, c'est un truc que je fais de plus en plus à mon niveau. Vous, ça a l'air d'être assez inné, comme tu le disais, vous en faites des très jeunes. Il y en a qui arrivent à pousser le truc très loin, et je pense que c'est le cas peut-être pour d'autres sports de parcours, tu vois, comme peut-être le ski, tu vois, le ski alpin. Il y en a sûrement d'autres et que j'oublie, mais. Est-ce que vous cherchez à progresser en visualisation? C'est-à-dire, est-ce que tu peux t'entraîner avec d'autres exercices à devenir un meilleur visualiseur? Ou est-ce que je suis en train de complètement fantasmer?
Non, ça me parle. Moi, je l'ai pas fait. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire. Mais je suis à peu près persuadé que ça peut se travailler. Forcément, ça peut se développer, ça peut s'affiner, ça peut, Après, ça peut être sur des choses toutes bêtes. On peut avoir une très bonne visualisation, mais avec plein de mots négatifs, par exemple. C'est quelque chose qu'il faut pas avoir sur, quand on s'imagine. Ouais. Donc, ça peut être juste un petit détail comme ça. On peut se l'améliorer en disant, bon, non, je fais une visualisation en me disant que du positif. Là, je vais être bien. Là, il faut de la vitesse. Ou en me disant que des choses que je dois faire et plutôt que de dire des choses que je dois pas faire. C'est quelque chose qui aide vachement, ça. Quand on s'imagine en train de dire bon là il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ci, finalement c'est pas ce qu'il faut faire. Donc ça dans la visualisation c'est plutôt dire non, on va penser différemment et on va dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là dans cette porte, dans ce passage de vague. Donc c'est des petites choses qu'on peut travailler, ça c'est très facile, mais même dans la visualisation pure et dure, forcément il y a de quoi travailler et il y en a qui doivent le travailler.
Ouais, ok, ouais. Donc il y a un peu aussi de programmation neurolinguistique pour ajuster tout ça, ouais. Et on a parlé un petit peu là des 24 heures avant des 24 heures avant, tu vois, où t'observes et je me rends pas compte à quel point ça prend du temps Du coup, tout ce travail d'observation, c'est quasiment, je sais pas, c'est 1 heure, 2 heures, 3-4 heures. C'est 1 heure à où tu vas dessiner le parcours et tu vas en parler avec ton entraîneur et en parler peut-être avec d'autres, peut-être des concurrents ou des coéquipiers. Et puis après, tu te mets dans ta bulle pendant 2-3 heures. Je me rends pas compte à quel point c'est prenant parce que vous devez avoir que ça en tête, quoi. Enfin, je me connaissant, j'endormirai même presque pas la nuit, quoi, tu vois.
Ouais, c'est un peu chacun sa stratégie, son mode de fonctionnement. Encore, quand tu dis, moi, j'endormirai pas la nuit. Moi, ça m'arrive de pas endormir la nuit, et souvent, ça m'arrive de pas aller voir le parcours la veille. C'est-à-dire que je vais le voir le jour de la compétition. C'est-à-dire que la veille, ils montent le parcours, ils font une démonstration du parcours avec des gens qui ouvrent et qui essayent le parcours. Okay. Et moi, j'y vais pas. Parce que sinon, effectivement, je vais y passer la soirée, je vais y passer la nuit, je vais me réveiller en me disant, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Donc, au moins, je passe la fin de l'après-midi tranquille. La soirée et la nuit, je pense à autre chose. Et puis, le matin, par contre, je m'y mets. Après, les gens, il y en a qui peuvent le faire une fois avec un entraîneur, puis ils vont le refaire avec un autre entraîneur, et puis ils vont discuter. Ils ont besoin de parler, d'expliquer.
Intellectualiser le truc, ouais.
Moi, j'ai tendance à pas trop y passer de temps, mais sauf quand vraiment c'est tracé très très difficile et que voilà, il faut faire des gros choix de manœuvres, d'options techniques. Donc, ce qui se passe en général, c'est que je vais voir le parcours tout seul, je regarde un petit peu, je me fais une idée générale où je visualise assez rapidement ce qu'il faut que je fasse. Je fais une descente complète avec mon entraîneur en disant bon là, on est bien d'accord, il faut se mettre comme ci, comme ça. Après, il y a toute une partie de parcours. En général, c'est assez simple et on n'y passe pas des heures. C'est-à-dire qu'on sait faire, clairement, quand c'est deux portes en ligne droite, on sait faire. Et après, on fait un point. Je dis, bon, écoute, là, il y a sur telle porte où j'ai des doutes. Est-ce que tu peux regarder pendant que je vais m'échauffer? Est-ce que tu peux regarder les premiers concurrents? Et tu me dis comment il faut faire, comment ils font, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est le plus rapide? Est-ce que c'est ça? Et donc c'est à l'entraîneur là de prendre tous ces repères là et après de les retransmettre à son athlète à 10 minutes avant le départ en disant bon, on avait dit ces deux portes, donc la première c'est comme ça et la deuxième c'est plutôt comme ça qu'il faut passer. Et puis là bon, mais moi je me dans ma tête, je me revisualise le truc plusieurs fois pour avoir les bonnes infos et qu'au moment où j'arrive, ben il y a plus de doute, quoi. C'est tac tac. Ouais. On n'a pas de temps à perdre, clairement. Le parcours, il fait 1 minute 30 et on n'a pas une seconde pour réfléchir à ce qu'on doit faire.
Ouais, ok. Et juste pour me rendre compte, du coup, avant de... on va dire, sur le temps que tu as avant la course, tu te fais combien de fois le parcours en tête? Je sais pas, c'est 10 fois, c'est 20 fois, c'est 100 fois, c'est... avoir un ordre de grandeur, j'en sais rien, mais... parce que je pense que le chiffre doit être assez impressionnant, mine de rien. Ne serait-ce que se refaire 10-15 fois le parcours, c'est déjà
ouais, après, moi ça me paraît déjà énorme. Ça pompe pas mal de jus, je trouve, de refaire le parcours plusieurs fois. Moi ça me prend pas mal d'énergie quand même à chaque fois, donc je pense que je le fais 4-5 fois. Par contre, ça peut m'arriver d'insister plus sur un passage. Des fois il y a des passages clés qui sont très durs avec des appuis qu'il faut pas rater. Il y a deux appuis qui sont indispensables à mettre. Et là, je vois juste ces 3-4 portes. Là, je mets en mouise 3-4-5-6 fois d'affilée en me disant, là, les deux appuis, c'est clac, droite, gauche. Et après, je reprends droite. Et ça, je me le mémorise pour être sûr de, voilà, d'arriver et de, comme je disais tout à l'heure, que ce soit naturel et qu'il n'y ait pas de doute, il n'y ait pas la question à se poser. C'est je sais ce qu'il faut faire. Donc, ça m'arrive d'insister plus sur quelques passages. Après, non, je pense que si je le fais 4-5 fois, c'est déjà bien assez.
Ok. Ouais, non, mais c'est déjà beaucoup effectivement. Et puis, comme tu le dis, ça prend du jus, tu vois. Et il y avait des expériences qui étaient faites. Alors, je crois que c'était plus sur des bodybuilders, mais tu vois, on les faisait travailler, on les faisait visualiser des séances de muscu, et on se rend compte qu'ils brûlaient déjà énormément de calories, en fait. Tu vois, alors que ils avaient pas d'haltère, ils étaient en train de rien faire, mais juste le fait de visualiser quelque chose de très simple, hein, c'est quand même juste un muscle qui se contracte. Il y avait une vraie différence sur les calories brûlées, donc c'est hyper intéressant.
Non, c'est très puissant la visualisation. On s'en sert même pour travailler des points techniques. On s'aperçoit que juste en imaginant un mouvement, on a les connexions qui se font en nous jusqu'au notre cerveau. Elles se font alors qu'on fait pas le geste. C'est-à-dire qu'on arrive à apprendre un geste sans le faire, juste en l'imaginant, et c'est très puissant, donc forcément ça peut prendre pas mal d'énergie. Hein.
Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, moi, c'est, je le vois aussi, tu vois, quand je vais préparer, je sais pas, un discours, un pitch devant mon équipe et tout, je me l'imagine 4-5 fois et j'arrive, ça m'arrive des fois, en fait, j'ai plus d'énergie pour ma négo, pour mon discours et c'est, mais je suis en confiance parce que je l'ai fait, mais voilà. Et en fait, finalement, c'est le pouvoir de la répétition, de l'avoir fait 4-5 fois avant ou même un peu plus, qui fait que même si c'est moins bien, en fait, tu l'as fait tellement une fois avant que tu arrives dans une répétition et puis t'as plus besoin de, t'es presque en pilote automatique. Quoi,
ouais.
Donc c'est hyper intéressant. Et ben écoute, franchement, hyper. Moi je me régale là quand je parle de tous ces sujets-là. C'est vraiment un gros kiff. J'ai des petites questions pour la fin. C'est un peu des questions un peu Canal Plus, tu vois, assez simples. Tu peux y répondre un peu du tac au tac ou tu peux détailler un petit peu comme tu veux, mais la toute première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi? Ça ressemble à quoi?
Ouais, une bonne journée pour moi, c'est une journée où j'ai le temps de tout faire. C'est pas tous les jours, et surtout la journée où j'ai le temps de faire la sieste. Et ça, c'est une
bonne journée.
Ok. Ça veut déjà dire que j'ai le temps jours, de tout faire. Non, c'est pas tous les jours. J'ai pas le temps de tout faire tous les jours, mais pas mal. Et en ce moment, j'essaye de la faire pas mal quand on arrive en compétition, comme ça, c'est quand même pas mal d'avoir 20 minutes de sieste.
Ouais, ok. Donc, tu es plutôt la team 15 minutes plutôt que la team 1 heure et demie.
Non,
ah, bah, il y en a, c'est 1 heure et demie, hein. C'est
temps.
Ouais. Est-ce que t'as un porte-bonheur ou un gris-gris, une petite routine que tu fais juste avant un passage?
Non, j'ai pas de porte-bonheur, non. Non, pas de gris-gris, rien du tout.
Ça marche. Tu te vois comment dans 10 ans?
Oh, aucune idée. Franchement, c'est trop loin là, 10 ans pour moi. Aucune idée. Un endroit où il y a peut-être pas besoin de prendre trop l'avion et de faire trop de route, et j'ai peut-être un endroit dans une forêt un petit peu hors de la ville, mais c'est tout.
Ok, ça marche. On dit souvent qu'on apprend plus des échecs ou des erreurs. Est-ce que toi, t'as en tête un échec ou une erreur qui t'a plus appris que les autres?
Bon, ouais, peut-être l'échec de sélection olympique 2016, où ça se joue sur la dernière course. J'ai gagné la première, un concurrent a gagné la deuxième. Ça se joue sur la dernière. Celui qui gagne va au jeu. Et je fais une super manche, clairement. J'arrive, je suis 3 secondes devant tout le monde, et lui il part dernier. Et il arrive et il fait 6 centièmes devant moi. Donc c'est lui qui part au jeu en 2016. Ça a été difficile, mais dans le fond, je l'ai pas mal vécu parce que j'avais fait une super course, que j'avais tout donné. Et finalement, ça m'a quand même appris que j'étais numéro 1 mondial à ce moment-là. Quand même, je venais d'être champion du monde, champion d'Europe. T'as beau être bon, t'as beau donner tout ce que tu peux, t'as beau faire ce qu'il faut, et ben des fois, quand ça veut pas, mais t'as pas grand chose à regretter, et puis voilà. Donc ça m'a quand même appris, en me disant tu peux cocher toutes les bonnes cases dans la préparation, dans la course et tout, et des fois ça suffit pas, voilà.
Non, mais c'est toi, j'avais lu ce passage sur toi effectivement, et ça m'avait mis vraiment un coup au moral, quoi. Je me suis dit, moi je pense que je m'en serais peut-être pas remis, quoi, de quelque chose de dur, mais du coup, bon là c'est bon, t'as le ticket pour Tokyo, et faut kiffer, je pense. Bon, j'imagine que tu vas avec un super bon état d'esprit et que ça va le faire. Si tu pouvais revenir à ce premier pôle là, départemental, quand tu étais avec les plus jeunes et que tu pouvais te donner un petit conseil à toi-même, qu'est-ce que le jeune Boris il aurait eu besoin de savoir à ce moment-là pour être plus fort, plus performant, plus rapide? Si tu pouvais lui dire un truc à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je sais pas, éclate-toi, parce que c'est une carrière. Éclate-toi et prends du plaisir, parce que dans tout ce qu'on fait, il faut le faire avec du plaisir, et tu fais pas 20 ans de carrière si tu te fais chier dans ton bateau. Donc éclate-toi encore plus, parce que je me suis toujours éclaté, mais fais-le encore plus et profite de tout, parce que j'ai une carrière hyper longue qui est pas finie, mais j'ai l'impression qu'elle est passée à une vitesse dingue, et des fois je me dis, il y a 10 ans, quand je suis arrivé en équipe de France, j'étais le plus jeune. Aujourd'hui, c'est déjà moi le plus âgé, le plus ancien de l'équipe. Je me dis, mais c'est passé à une vitesse dingue. Donc, profite de chaque instant. C'est quand même des moments sympas d'être en équipe de France à préparer un championnat du monde, être au départ d'un championnat du monde ou d'une finale d'une Coupe du Monde. C'est quand même des moments hyper, hyper sympas avec une bande de copains pour la plupart du temps avec qui tu te régales bien sur l'eau et hors de l'eau. Donc, profites-en parce que ça passe vite. C'est ce que je me dirais.
Ok, ça marche. Bah, t'as raison. Profites-en. Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tous les gens autour de toi parce que tu l'as adoré, parce qu'il t'a marqué
Alors livre, non, je suis pas du tout livre. Film, je suis pas trop film, mais il y en a deux qui m'ont marqué. C'était Le Pianiste, ça s'appelle, et Gladiator. J'aime bien ce film. Voilà, je les regarde.
Ah bah ils sont géniaux, ils sont géniaux. Ouais. Je confirme. Le Pianiste, c'est il est renversant. Franchement,
c'est
il
joli, ouais.
Après Gladiator, tout le monde le connaît. Il y a un petit côté. Mais ok, hyper intéressant. Est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui avant de terminer?
Non, je pense que t'as pas mal ratissé. Tout ratissé, non, j'ai pas de questions qui manquent. Désolé.
On est allé. non, mais c'est un auditeur qui m'a suggéré cette question il y a pas très longtemps et la réponse est souvent la même parce que tu vois, je creuse un peu dans tous les sens, donc
c'était bon,
forcément.
C'était bon. Je parle bien tes dossiers et que t'as des bonnes questions, non?
Mais c'est pas forcément. Je fais de la je les prépare certains plus que d'autres, mais. Mais en fait, je vais surtout vers ce qui m'intéresse, tu vois. Et tu vois, typiquement, je sais qu'avec toi aujourd'hui, j'allais me régaler parce que moi, j'adore, tu vois, les rentrer un peu dans le détail de la performance. Je m'entraîne aussi. J'ai fait du triathlon, donc je me suis aussi farci des semaines à 10-12 ouais. entraînements par semaine. J'aime bien la visualisation et je le réutilise aussi pour ma vie professionnelle ou personnelle, tu vois. Et donc, tu vois, je savais que et pareil, même sur les sujets de la longévité, sur les sujets de la lassitude et tout, j'ai exactement la même chose avec ce podcast, tu vois. Ça c'est bête, mais j'arrive à la 100e interview. Tu vois, comment est-ce que tu fais pour te renouveler, à prendre toujours du plaisir, et du coup, je sais qu'aujourd'hui, je savais que sur tous ces sujets-là, t'allais être hyper calé, et du coup, j'allais me régaler, donc, ouais, effectivement, c'est plus facile. C'est toi qui me facilite la tâche, hein. Et c'est pas moi qui ai fait du gros boulot. Trop cool. Écoute, la dernière question, c'est toujours la même question que je fais pour clôturer ces interviews. C'est un petit peu comme un passage de flambeau olympique, mais là, c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir quel est le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes d'aller interviewer un peu sur ce format-là où on peut parler un peu de parcours, parler un peu de technique, parler un peu de d'entraînement, de performance. Qu'est-ce que tu me recommandes? Ça peut être des gens très connus, moins connus.
Je pense qu'il y en a un qui doit cocher toutes les cases. Je le connais pas personnellement, mais il a arrêté. Et c'est quelqu'un que j'admirais pas mal. En tout cas, sa carrière, sa communication, son palmarès, puis voilà, ses engagements, j'avais toujours bien accroché. C'est Martin Fourcade, biathlon.
Okay.
Je pense que tu l'as pas encore fait. Et je trouve que voilà, tu vas pouvoir parler préparation physique, visualisation. Je pense que tu vas pouvoir t'éclater. Et puis sinon, Émilie Fer en kayak.
Vas-y, voilà. Ça marche. Ouais, avec Émilie, je croise les doigts. Ça va le faire. Je vais lui renvoyer un petit message tout de suite. Et puis Martin, écoute, j'ai des petits contacts, mais je crois que en ce moment il ferme un petit peu la porte à tout ça, donc il faudra que je retourne dans quelques mois. Et c'est normal, tout le monde a un petit peu de boulot avec les échéances qui arrivent et libre à chacun de se focus sur ses objectifs. Mais écoutez, merci pour les recos. Écoute, Boris, j'ai vraiment passé un super bon moment. Déjà, j'ai bien rigolé. On a aussi parlé de sujets très sérieux et très pointus. Je pense qu'il y a plein de pépites pour les jeunes et aussi même d'outils très concrets à reprendre, tu vois, pour sa vie de tous les jours et son quotidien. Donc, franchement, merci infiniment d'avoir pris le temps. Je sais qu'en plus la période est méga chargée et que tu dois avoir d'autres trucs en tête. Où est-ce qu'on on dirige les auditeurs? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on leur dit de t'envoyer un petit message de soutien? Est-ce que et c'est quoi l'appel à l'action là qu'on peut donner aux auditeurs? Tu m'as dit que t'étais pas très Facebook et que t'hésitais presque à le fermer. Mais comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut te soutenir, Boris?
Non, mais il y a pas grand chose à faire. Effectivement, je suis pas du tout calé tout ce qui est communication, ça m'a jamais trop et réseaux sociaux, ça m'a jamais trop attiré. Donc je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Facebook, je suis sur Facebook, mais on peut dire que j'y suis pas. Ceux qui veulent me suivre, j'ai envie de dire un peu bon courage parce que c'est un bon vous pouvez sur Facebook, je pense que vous pouvez m'envoyer un message. Je suis pas très réactif, mais j'essaierai de le lire et de vous répondre.
Bon, bah ça marche, on fait ça. Il faut être clément vu la période.
Ouais.
Voilà. Écoute, merci infiniment, Boris. J'ai passé un super moment et j'espère que toi aussi. Donc, à bientôt. Et je suis sur une petite table en bois. Je la touche de mes deux mains pour toi et que tu te régales au max à Tokyo.
Eh bien, merci. Au plaisir.
Salut.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.